Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU carré petit utile.
Dans cette release de CPU, des images projetées, l'IA devant l'objectif, de la motion capture et un fucking Kassovitz. Notre invité est Jean-Louis Cruz, réalisateur audiovisuel et formateur IA. L'équipe aujourd'hui d'Askritch et silence sur les smartphones, ça tourne. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te demandes pourquoi une grande partie des gens de ton entourage sont très inquiets de l'arrivée de l'IA générative en vidéo. À croire qu'un astéroïde va nous tomber sur la gueule et dans une explosion cataclysmique provoquer l'extinction de masse de toute vie artistique. En 1909, naît le dessin animé. Le principe est simple, on reprend la technologie du cinématographe, mais on prend une photo après l'autre en changeant atomiquement le dessin qui est présenté devant l'appareil afin qu'en projection à vitesse normale, le dessin donne l'impression au spectateur de se mouvoir. Avant ça, il existait des adaptations de Lanterne Magique qui utilisaient la projection en nombre chinoise de marionnettes en deux dimensions et le praxinoscope qui consistait en un cylindre répétant en boucle la même animation comme un gif animé. Or, s'emparer de la technologie du cinéma pour faire du dessin animé, c'est très exactement ce que va faire le dessinateur Winsor McCay, déjà talentueux créateur de la bande dessinée Little Nemo in Slumberland. À l'époque, en plus de ses dessins pour les quotidiens, McCay se produit sur scène dans les foires et théâtres devant un public où il fait des dessins en direct à la demande de spectateurs sur d'immenses feuilles. Sauf que ce soir-là, en plus de ses croquis réalisés à la demande, il dit qu'il va donner vie à un de ses dessins. Le dessinateur reste sur scène et va dessiner sur un immense drap un dinosaure qu'il va prénommer Gertie, laquelle, sous les regards médusés de l'assistance, va prendre vie, faire quelques tours, mais se rebeller et attaquer le dessinateur qui fuit de la scène en panique, puis le dinosaure ressuscité mange le drap de projection pour s'enfuir dans la jungle derrière. Techniquement, l'illusion est parfaite, mêlant le jeu d'acteur du performeur et la technologie du cinéma. À l'époque, le cinématographe était déjà décrié depuis une décennie par une majorité des artistes du music-hall. Tandis que d'autres, tels que justement Winsor McCay ou Georges Méliès, vont justement profiter de ce nouvel outil pour créer de nouveaux champs d'expression créatifs et performatifs. Enfin, du futur immédiat, et comment ça, mes termes sont trop techniques, mais t'as qu'à chercher dans le dico. Nous voici aujourd'hui, 115 années plus tard, la teneur du débat entre ceux qui refusent et ceux qui utilisent l'IA générative dans l'audiovisuel sont à peu près aussi tranchées. Sauf que la différence, c'est qu'on a moins besoin d'un savoir-faire technique puisque des services logiciels ont assimilé, tels les Borg de Star Trek, le savoir-faire de millions d'artisans, d'artistes et de performeurs. Et il y a autant la fascination pour les champs du possible que la question des métiers qui ont été pillés par de très grandes entreprises sans rétribution équitable. Entre les deux, il y a les utilisateurs de ces IA génératives, appliqués à une animation nouvelle vague. Avec cet étonnant paradoxe, leur travail se nourrit du travail qui a été repompé voire pillé, comme le sera le leur, ce qui pourrait amener à la même situation actuelle d'épuisement du logiciel libre. Revenons à l'image animée. Le cinéma et les séries télé sont des œuvres qui peuvent employer des centaines d'artistes, de spécialistes, de techniciens, et le regard du public est inconsciemment perceptif à la technicité employée pour se plonger dedans. La magie de Wallace et Gromit serait très différente si la pâte à modeler n'était pas aussi visible. Quand tu vois des films d'action de Hong Kong des années 70 à 90, t'as une impression physique qu'il s'agit de scènes réelles. Comme dans les cascades de Jackie Chan dans les films Police Story, tu sens qu'il s'est fait très mal en se recevant la fin d'une chute spectaculaire. D'ailleurs, tu le vois durant le générique de fin avec tes acteurs favoris qui ressortent en ramassant une dent ou ont leurs jambes cassées au point que l'équipe de tournage filme l'arrivée en catastrophe de l'ambulance. 35 ans plus tard, quand tu vois une épique bataille rangée de super-héros dans un film Marvel ou DC, au bout d'un moment tu dis Mais quand se font-ils mal? Ou encore, ils ne sont pas assommés à se prendre une accélération dans les airs après un choc pareil? Pourquoi en est-on venu à ça? Par la surenchère que nous-mêmes, spectateurs, avons exigé. Impossible de faire un film d'une franchise d'action genre Star Wars, James Bond ou encore Chronique des Bridgerton moins spectaculaire que la précédente. Et aussi parce qu'il n'est plus du tout possible de mettre en danger un seul membre du cast, car les assureurs auraient immédiatement bloqué la production du film avant même le tournage de la scène. Tout n'est plus que doublure cascade ou carrément reconstitution complète de la scène en 3D. Quand Pixar s'affirme en 1995 comme nouveau venu dans le cinéma avec Toy Story, le premier long-métrage entièrement en images de synthèse, il va ouvrir des possibilités extraordinaires. Peter Jackson, qui 8 ans auparavant cuisait ses masques d'extraterrestres dans le four de sa mère pour son premier film Bad Taste, comprend qu'il va pouvoir adapter Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien avec des effets visuels numériques indiscernables. Oui, sans Pixar, point de Weta Studio. Et c'est toute la question de l'arrivée de l'IA dans une chaîne de production. Plus besoin de cascadeurs, plus besoin de truquistes, plus besoin de motion capture, plus besoin de modeleurs de scènes et de personnages, plus besoin d'animateurs 3D, plus besoin de réalisateurs spécialistes de rendu. Par un prompt de moins d'une dizaine de lignes, tu peux organiser un combat à main nue entre Tom Cruise et Brad Pitt, simplement en prenant un abonnement à Seedance, le moteur de rendu vidéo en IA générative de ByteDance. En une heure chrono, le temps entre le moment où t'as eu l'idée assis sur ton trône des toilettes, à défaut d'un siège de réalisateur, et celui où t'as envoyé la vidéo produite sur les réseaux sociaux. Bien sûr que cela pose quelques milliers de questions. Il y a par exemple la question des pack shots, des plans présentation produits, extraordinaires dans les pubs américaines pour les aliments, les shampoings et les sodas, qui sont des effets spéciaux physiques montés par des techniciens incroyables, construisant des machines folles pour filmer les ingrédients d'un burger s'empilant dans un ralenti gracieux. Si, si, ça n'était pas de la 3D. Va trouver le lien dans la page de la chronique, tu en seras hypnotisé. Est-ce que ce savoir-faire existera-t-il encore dans 5 ans? Hayao Miyazaki, le magicien de l'animation japonaise, a utilisé la 3D pour Le Voyage de Chihiro et son complice Isao Takahata n'a utilisé que l'informatique pour nos voisins les Yamada. Alors que ce dessin animé semble entièrement ancré et à la gouache. Et pourtant, en 2014, le maître des studios Ghibli a reçu des développeurs d'une solution d'animation par IA d'un squelette de personnages en 3D afin de réduire les interventions des animateurs 3D. Leur projet visant l'industrie du dessin animé, des effets spéciaux et du jeu vidéo fait le tour des grands studios nippons pour y entrer, voire négocier des droits. L'équipe de dev propose une expérience amusante en projetant un corps humain désarticulé qui rampe d'une façon grotesque. Le sensei de l'animation mondiale réagit froidement. Tous les matins ou presque, je vois un ami qui a des difficultés physiques. Toper haut la main lui est très difficile. Son bras, aux muscles atrophiés, manquant la mienne. En pensant à lui, je ne peux regarder votre truc et le trouver intéressant. Qui a créé cette vidéo ne peut comprendre ce que c'est que la douleur ou de telles difficultés. Je suis absolument dégoûté. Si vous voulez vraiment faire un film d'horreur, vous pouvez y aller. Et je ne souhaite absolument pas intégrer cette technologie dans mes œuvres. J'ai la conviction profonde qu'elle est une insulte à la vie elle-même. Dans la salle de réunion, la délégation est mortifiée par sa colère. Quand les visiteurs expliquent qu'ils souhaitent créer des IA génératives pour produire du dessin animé, le regard du réalisateur se fige. À leur départ, il lâchera. Je nous sens proches de la fin des temps. Nous, humains, nous avons perdu la foi en nous-mêmes. C'est toujours la même question que les débuts du cinéma. La vie ou l'illusion de la vie elle-même. Nous avions déjà abordé le sujet avec Mr. Fox quand nous parlions de doublage. Et ce sont des questions qui ont émergé en 1948, quand George Orwell, dans son roman 1984, imaginait des chansons écrites à la chaîne par des ordinateurs du ministère de la Culture. Enfant du futur immédiat, nous sommes face à un ouvroir du cinéma potentiel. Un peu comme quand le réalisateur Jean-Luc Godard va théoriser la nouvelle vague avec son film À bout de souffle. Préférant une caméra légère et portable pour ne plus être soumis aux contraintes du tournage en studio, et aussi pour être honnête, faute de budget. Le réalisateur suisse fait déambuler Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo dans les rues de Paris ou en voiture sur une route de campagne, avec une liberté de mouvement inédite. L'IA est une révolution. Nous allons y perdre, nous allons y gagner. Et même si rien ne sera plus comme avant, je te fiche ma chronique, il y aura toujours des producteurs pour miser sur des productions à l'ancienne. Pour le beau geste. Et surtout, pour une certaine chaleur ressentie.
If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true from this broken hill, I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring, if it be your will to let me sing.
Leonard Cohen, If It Be You Will, bande originale du film très étrange Le Congrès, sorti en 2013.
If it be your will, if there is a choice, let the rivers fill, let the hills rejoice, let your mercy spill on all these burning hearts in hell. If it be your will to make us well, and you draw us near and bind us tight, all your children here in their rags of life, in our rags of life, all dressed to kill. And in this night, if it be your will, if it be your will.
Vous écoutez Radio Éphémère. Pourquoi un métier artisanal comme le cinéma est en train de basculer très rapidement vers l'IA? À quel prix et à quel risque? Des images de documentaires ou glitchs voulus par un réalisateur de publicité, ce que l'on peut et peut-être ce que l'on ne doit pas faire. Nous cherchions à connaître le point de vue d'un réalisateur qui a eu une longue expérience dans l'audiovisuel, qui connaît les méthodes traditionnelles et qui est passé du côté production par IA générative. Non, attends, je peux le refaire. Production par IA générative. Côté obscur, forcément. Nous avons le plaisir de recevoir en chair et en os Jean-Louis Cruz, réalisateur de films publicitaires, formateur en IA générative, membre fondateur de la représentation à Toulouse de l'ANIA, l'Association Nationale de l'Intelligence Artificielle, à ne surtout pas confondre avec Jean-Louis Demion, c'est toute une époque, et fut mon réalisateur télé pour des émissions et publicités, c'était il y a plus de 2 décennies. Ceci est la première partie de l'interview, la suite sera diffusée la semaine prochaine. L'intégralité de l'interview est disponible sur la page web de l'émission cpu.pm/239.
CPU utile.
Avant de commencer, j'ai eu un mémo de mon équipe qui m'a dit qu'il fallait vous appeler Monsieur Cruz. On peut continuer en se tutoyant, parce que on se connaît bien et surtout que notre interview va avoir un ton peu formel. Je sens que tu vas me chambrer. Je sais pas pourquoi.
Non, je sais pas comme ça. Non, non, non. Alors effectivement, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît depuis fort longtemps. On a collaboré sur plein de choses les plus délirantes les unes que les autres grâce à ton esprit très pétillant. Donc, pourquoi Monsieur Cruz, c'est ça?
Pourquoi Monsieur Cruz? Non, moi, ce que je voudrais, c'est revenir sur ton parcours. Quand je t'ai connu, t'étais déjà dans l'audiovisuel. Mais avant la réalisation vidéo, tu as commencé par la PAO pour du print, notamment des flyers. Comment tu es arrivé à la PAO pour commencer?
Alors d'abord, je vais essayer de la faire courte. Mon parcours, c'est je suis diplômé avec mention des Beaux-Arts en art graphique. Donc je suis sorti des Beaux-Arts, j'ai travaillé direct dans la communication et la publicité, dans la grande distribution, parce que je voulais gagner correctement ma vie. Et ensuite, j'ai fait un peu de com pour certains bars et boîtes de nuit à Toulouse. Je me suis un petit peu amusé. J'étais justement repéré par rapport à ça, par la société qui s'appelait à l'époque Arletty 3. Et donc j'ai eu un premier pied donc dans l'univers de l'audiotel, etc. C'est comme ça un petit peu que je suis rentré dans cette société qu'on a en commun avec toi, Dasrit.
Et où à l'époque, d'ailleurs, comme pour les bars et tout ça, c'était le print qui était le média dominant pour communiquer.
Exactement. Donc j'ai commencé à travailler dans le print, effectivement, et je suis rentré là-bas pour travailler sur un magazine des World Apart, donc qui était un boys band à l'époque. Et donc j'ai commencé par ça, j'ai pas mal travaillé là-dessus, sur des pubs en audiotel, on faisait du Minitel aussi, je crois, à l'époque. Il n'y avait pas encore le SMS Premium, donc c'était principalement ça. Et ensuite, je me suis amusé un jour, je me souviens à l'époque, donc la société en question avait des licences. Et les licences, entre autres, il y en avait pas mal, il y avait les Simpsons, il y avait Buffy contre les vampires, il y avait d'autres licences dont j'ai oublié le nom.
X-Files et plein d'autres.
Je pense que oui, ils devaient avoir X-Files, effectivement. Et je me souviens notamment de Buffy contre les vampires, pourquoi? Parce qu'à l'époque, donc pour développer et exploiter ces licences, il était question de tourner des spots publicitaires. Et à l'époque, ils faisaient appel à un réalisateur toulousain qui s'appelait Bertrand Foureau, et une société qui s'appelait à l'époque Digivision, je crois.
Qui existe toujours.
Et qui existe toujours. Donc, on leur commandait beaucoup de pubs. Enfin, ils leur commandaient beaucoup de pubs. Ça leur coûtait très cher. Et je me souviens qu'à un moment donné, il était question de faire une pub pour, justement, Buffy contre les vampires. Ils leur ont demandé à de nombreuses reprises. Et j'avais entendu vent de cette histoire. Et moi, un jour, je suis parti en week-end dans l'Ariège, tu vois, chez des amis. Et je me souviens c'était un soir orageux. J'avais ma petite caméra Sony, je me souviens plus laquelle, mais une toute petite caméra en mini DV. Et j'ai tourné des images dans un cimetière, dans l'Ariège. Alors tiens-toi bien, il y avait une lumière très particulière, j'avais fait des images comme ça, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être drôle de les mixer avec des squelettes en 3D, des effets de scratch, et ces images tournées dans l'Ariège, dans un cimetière, pour proposer ça comme base de support pour un spot pour Buffy contre les vampires, célèbre série américaine de l'époque. Et j'ai monté un petit test comme ça, j'ai montré au big boss de l'époque, qui s'appelait Patrick Abadi, et je me souviens très bien de sa réaction. Il a regardé, il a éclaté de rire. Je me suis dit, bon, c'est nul. Et il m'a dit, à partir de maintenant, c'est vous qui allez faire les spots. Voilà ce qui m'a sorti.
Sachant que quand on passe une publicité, c'était les publicités qui étaient prévues pour la télévision. Oui. Mais quand on passe sur les grands réseaux, ce genre de publicité, ça passe par un nombre incroyable de filtres de contrôle de qualité.
Ouais.
Donc que ça puisse y passer, c'est une très très belle histoire. Je la connaissais pas en plus.
Tu vas découvrir plein de trucs. Ça s'est passé comme ça. Mon premier pied dans la réalisation audiovisuelle, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait d'école d'audiovisuel, je devrais pas le dire parce que je suis aujourd'hui enseignant dans des écoles supérieures d'audiovisuel, mais je n'ai jamais fait d'école d'audiovisuel. Tout est intuitif, j'ai énormément consommé de making-of sur les DVD que j'achetais. J'ai acheté plein de DVD de films, la première chose que je regardais c'était les making-of avant même de regarder les films, tu vois. Donc
c'est quelque chose que la nouvelle génération ne connaît absolument
non,
pas.
Non.
Intéressez-vous aux DVD.
Ouais. Parce que je voulais savoir comment c'était fait, donc je regardais d'abord le making-of avant même de regarder le film. Parfois même je regardais même pas le film. Je regardais la technique, l'éclairage, les caméras, les travelling, les dolly, tout le matériel qui était utilisé, et ça a commencé comme ça. Voilà. Après, je pourrais continuer. On a signé des licences, donc j'ai tourné avec plein de célébrités. Alors à l'époque, c'était beaucoup de célébrités du monde de la télé-réalité, Loana notamment, Charlie Lulu, en fait des gens, des animateurs comme ça. Après, il y avait tout un département, je sais pas si je dois en parler, Charme. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Clara Morgan. J'ai tourné beaucoup de pubs avec elle. du contenu aussi un peu sexy, mais jamais de choses. Enfin, ça fait pas partie de ma personnalité de faire des choses dans le porno, quoi. Mais j'ai croisé pas mal de célébrités de l'époque. Lolo Ferrari, Laetitia, la reine des amateurs.
Toute une époque, voilà, comme on toute dit. Une voilà. époque. Avant d'aller plus loin sur l'IA, as-tu déjà programmé, as-tu déjà pondu du code? JavaScript, C#, Bash, alors, tout ça.
Programmer, non. Je pense que alors ça, j'ai pas du tout la personnalité pour ça. C'est extrêmement rationnel. C'est pas la seule chose que j'ai faite, c'est quand j'étais ado, c'était programmer en basique. Alors tu vois, c'est avec les
c'est déjà un bon départ.
Les ordinateurs de l'époque, Amiga 2000, MSX, tous ces trucs là. J'étais un passionné. Sega Yeno SC3000 ou tous ces trucs. Peut-être ça parle à certains de tes auditeurs.
Oui.
Voilà, tous ces trucs. Alors là, moi, j'étais vraiment complètement fan. J'ai eu le ZX81 quand c'est sorti. Ensuite, j'ai eu d'autres ordinateurs dont j'ai oublié le nom, mais j'en ai eu un paquet. Voilà. À l'époque, j'étais complètement fou, quoi.
Tu as eu une carrière de réalisateur de publicité, de vidéoclips, de reportages, de documentaires avec décors et acteurs réels. Il y a des reportages à toi qui sont passés dans le JT TF1 qui sont sublimes. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans la génération paria?
Alors, l'IA... Pour tout expliquer, c'est une personne que nous avons en commun, justement, on en parlait juste avant l'interview, qui s'appelle Eric Laforgue, qui m'a dit « Intéresse-toi à l'image générée par IA ». Et je te cache pas qu'au début, quand je suis arrivé, c'était sur Discord, les premières utilisations de Midjourney. Je détestais ça. C'était que du texte, et je déteste ça. J'aimais pas. Et au début, j'aimais pas du tout ce que je fais. J'ai mes premiers tests, d'ailleurs, je les ai encore dans mon ordinateur, je te les montrerai. Dommage, on peut pas les montrer à tes auditeurs, mais...
On va leur éviter la vision, peut-être. Ou sinon, on mettra l'URL, ouais, et puis voilà.
Par exemple. Alors, c'était fin 2022 que j'ai commencé. Et au début 2023, je commençais à avoir des images que je trouvais assez intéressantes et ça a commencé comme ça.
Pour remettre dans l'idée, la génération par IA d'images, c'est arrivé début 2022. Donc, tu étais un peu dans les early adopters et en même temps, on était vraiment dans les débuts de cette technologie, quoi.
Ouais. Enfin, en tous les cas, j'ai trouvé que moi, ayant une formation Beaux-Arts, étant très attaché à la qualité de l'image, à l'originalité, au travail sur les textures lumières, etc., je trouvais que on commençait à avoir des choses intéressantes début 2023. Ouais. Et après est arrivé, je pense que ça devait être fin 2023, début 2024, la possibilité d'animer les images de façon assez intéressante, et j'ai commencé à glisser petit à petit vers l'animation, la production audiovisuelle en IA, on va dire, oui, en 2024. Et ça commence vraiment à partir de 2025 où j'ai commencé à faire des vraies productions pour des sociétés de prod, etc. À commencer à utiliser l'IA de manière, entre guillemets, qualité broadcast et professionnelle.
T'as été bluffé par la montée en qualité.
Oui. Et je le suis toujours parce que, je trouve qu'il y a de l'upgrade quasiment, allez, tous les mois ou tous les 15 jours, je suis scotché, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois, je dis, waouh, c'est génial, on ne pourra pas aller plus loin. Ben non, on y arrive. C'est-à-dire, à chaque fois, ça se remet, on repart à zéro, quoi. Enfin, pas à zéro, mais il y a tout le temps des nouvelles possibilités, des nouveaux outils qui apparaissent et c'est bluffant. Enfin, je te montrerai d'autres trucs, tu verras.
Tu t'es formé comment? Quelqu'un t'a aidé? T'as lu un article, des tutos sur YouTube, une formation en alternance à l'AFPA?
Alors, je me suis auto-formé à partir de tutos, de passionnés sur YouTube. Oui, c'était principalement en YouTube. Et des sites un peu spécialisés dont j'ai oublié le nom, de personnes qui suggéraient des manières de travailler. En fait, les bases, c'est souvent des personnes comme toi, tu vois, qui défrichent le terrain et qui testent des trucs et qui sont des passionnés et qui... finalement réussissent grâce à eux à passer le relais à des utilisateurs comme moi qui sont un peu réfractaires à la technique et tout. Enfin, c'est très difficile pour moi, j'ai pas le cerveau formaté pour ça, mais en tous les cas grâce à des gens comme toi ou d'autres qui sont peut-être tes auditeurs, ça permet de passer le relais à des gens comme moi qui sont sur le terrain, qui produisent.
Monsieur Cruz, Jean-Louis, on va proposer un break musical. Habituellement, je ne fais la programmation musicale qu'après l'interview, mais si je te dis un clip réalisé par Michel Gondry, un clip réalisé par Chris Cunningham, un clip des Perfumes, un extrait de la bande originale du film Le Congrès d'Harry Fallman, un de la bande originale du film A Scanner Darkly de Richard Linklater, un clip tourné en public de Mutt, tu as deviné un petit peu la thématique?
Alors, les réalisateurs que tu as, Chris Cunningham, Gondry, ça me parle. Après, la suite, ça me parle moins, mais vas-y.
Ça va être sur l'image, mais c'est dommage, on fait de la radio. On se retrouve après ça. Darkly Mix, remix par Jack Dangers des Midbeat Manifesto, bande originale du film A Scanner Darkly avec ce rendu très 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 bizarre. Radio Éphémère. Le projet a une idée titillante qui a tout pour brasser large. Mais la compta ne suit pas, deux cultures s'opposent sur le même but, les techniciens reçoivent des contre-ordres, le lead intrigue pour la place de project manager et au final, ils livreront tous un échec industriel. Bienvenue dans les coulisses d'un film qui pourrait éclairer bien des projets informatiques. 2006, sortant du tournage de Munich par Steven Spielberg et toujours auréolé du succès de La Haine, Mathieu Kassovitz se lance dans un ambitieux projet de film de science-fiction, Babylon AD, adaptation d'un roman post-apocalyptique de Maurice Dantec. La vision artistique du réalisateur est de mélanger trois genres cinématographiques, chacun incarné par un style de réalisation par plan où apparaît une star. À l'affiche, Vin Diesel pour le blockbuster américain, Michelle Yeoh pour l'action shooter hongkongais et Mélanie Thierry pour la fine fleur du cinéma français. Vin Diesel est à son climax d'action hero avec la série Fast and Furious. Quant à son incursion dans la science-fiction, elle a été parfaitement réussie avec les chroniques de Riddick. Mathieu Kassovitz, lui, a l'ambition de sortir la science-fiction du cinéma de genre où la cantonne la critique française, souhaitant se hisser aux côtés de Jeunet, Caro et Besson. L'idée est ambitieuse, le montage financier fait intervenir plusieurs producteurs, à la fois européens et l'American 20th Century Fox. Et comme l'idée est de tourner en Europe pour valoriser le savoir-faire du vieux continent pour de futurs blockbusters, les limites budgétaires font que le tournage aura lieu en République tchèque. Vin Diesel a été imposé par la production américaine et l'acteur s'implique personnellement dans le projet, arrivant 3 semaines avant ses sets afin de s'entraîner avec les cascadeurs. A priori, il y a peu de chances que ça parte en sucette, et pourtant. Deuxième jour de tournage, une cascade tourne mal, le kickboxer Jérôme Le Banner se fait casser la jambe à cause d'une erreur de Vin Diesel. Et le film va commencer à prendre du retard. L'hiver trop clément incite à délocaliser le plateau en Islande pour les plants dans de vastes paysages abondamment enneigés. Mais au retour dans les studios tchèques, une partie des décors n'ont pas été construits. C'est là que Mathieu Kassovitz apprend, avec stupéfaction, que le financement nécessaire a été retenu par les producteurs pour une raison inconnue. On arrive donc au paradoxe que, faute d'avoir financé dans les temps la construction du plateau, les producteurs vont payer les équipes à ne rien faire durant un nombre indéterminé de semaines. Le planning du tournage doit donc jouer avec ce qui peut être construit au plus vite. Nouvelle déconvenue, Mathieu Kassovitz découvre que les décors, les costumes, les accessoires ne suivent pas sa vision, ont été faits à l'économie ou redesignés sans l'en prévenir, donc sans son accord et sans prévenir les autres corps de métier, ce qui va poser des soucis de cohérence lors de la post-production des effets visuels. Ajoutons un acteur principal, Vin Diesel, qui ne s'implique plus, pas plus coopératif, ce qui jette deux fois du comburant, du vin, du diesel, sur l'humeur inflammable du réalisateur, lequel a déjà du mal à réécrire à la volée son script à cause de ses contraintes ubuesques. L'atmosphère est explosive et pète d'un coup. Kassovitz envoie une caméra à la tronche de son acteur star, lequel quitte le plateau pour discuter avec ses avocats en Californie. On comprend que son retour sur le tournage n'a lieu que suite à un savonnage sérieux du futur malotru. La production reprend, mais l'acteur traîne toujours des pieds et le metteur en scène a les nerfs éprouvés. Arrive la cassure définitive où Vin Diesel prend un parti devant l'ensemble de l'équipe technique, le réalisateur, dans un long monologue, lequel préfère ne rien dire afin de laisser passer l'orage et de ne pas se faire jeter par la major américaine. Sauf qu'après sa diatribe, Vin Diesel veut prendre le contrôle du tournage et ne cache plus qu'il fait venir des potes du métier au cas où. Les retards cumulés font intervenir les assurances. Les assurances ? Oui. Quand le budget prévisionnel d'un long métrage dépasse quelques millions d'euros, une assurance de bonne fin est prise par toute production responsable afin de garantir que le film soit terminé. Et pour certaines productions, on crédite même les réassureurs qui assurent les assureurs. Pratique devenue standard depuis que les dépassements budgétaires homériques du film La Porte du Paradis a mené la major United Artists à la faillite en 1980. Ok, et que font les assurances sur un film ? Tous les soirs, la compta d'un film va remonter l'état d'avancement sur le calendrier prévisionnel, les budgets estimatifs et dépenses effectives. Et donc tous les matins, un assureur va regarder si financièrement la production reste dans les clous. S'il y a quelques jours de retard, un premier coup de fil s'impose. Si ça continue à dériver, une réunion en visio est convoquée pour le lendemain. Et quand le retard cumulé indique un certain dépassement de budget, ou que le décor principal a été détruit par une catastrophe, ou qu'un acteur principal a un grave problème de santé, les deux dernières situations étant arrivées en même temps à Terry Gilliam, la vision artistique cède la place à la logique comptable. Et donc débarque sur le plateau du tournage des experts de l'assureur pour constater l'avancement du projet, les raisons du blocage. Et ces experts rédigent un rapport d'audit, incluant en pièces jointes quelques tableaux Excel plus glaçants qu'un film de John Carpenter. Soit la production continue telle qu'elle, mais en se pressant, soit l'assureur accepte de faire une rallonge budgétaire, soit le film est arrêté et les investissements sont perdus, soit on passe à un plan de secours où l'équipe technique est remodelée. Dans ce dernier cas, on acte la mise à l'écart du réalisateur, la coupure avant montage de scènes complètes, l'arrivée d'un yes man qui va tenter de tourner la fin au plus vite et à l'économie. En général, soit le réalisateur ronge son frein, soit il retire son nom du générique pour y créditer un Alan Smithy exprimant à mots couverts son désaccord sur l'œuvre diffusée. Mettez-vous à la place de Mathieu Kassovitz. La situation qui lui a totalement échappé et ses énervements qu'on peut juger légitimes pourraient peser sur sa carrière. Il pourrait devenir tricard dans les studios américains et peut-être même que les producteurs européens le cantonneront au rôle d'acteur. Qu'est-ce qui lui reste ? Sourire à la caméra et dire en interview que tout va bien. N'étant plus réalisateur, n'étant pas acteur sur ce film, étant dépossédé du scénario, n'est plus que toléré sur le plateau. Il promène son chien derrière les décors pour croiser du regard des ex-subordonnés qui soit l'ignorent, soit le regardent d'un air désolé.
Pour résumer, c'est Kenny qui réalise, c'est Vin qui écrit, et il y a juste Mathieu derrière son combo. Quoi. Et après, on dit que le film est un film indépendant, non contrôlé par les Américains.
2008, après une longue période de post-production, Babylon ID sort en salle et fade. Se prend des critiques déçues et manque son public, manquant sa rentabilité. Mais le public ignore pourquoi un tel ratage. Kassovitz n'en parlera plus, Mais l'insuccès de son film suivant, L'Ordre et la Morale, finira de l'écarter de la réalisation cinéma. Il prendra très poliment, via son compte Twitter, je le cite, « J'encule le cinéma français, allez vous faire baiser avec vos films de merde !» Ah oui, toute sa verve poétique. C'est justement peu après la sortie de L'Ordre et la Morale, donc 4 ans après le tournage de Babylon A.D., que Kassovitz envoie un lien Dailymotion sur Twitter sans aucune explication ni commentaire. À l'autre bout, le making-of jamais sorti de Babylon A.D. La vidéo est titrée « Fucking Kassovitz », citant une sortie énervée du réalisateur.
« I'm not Orson Welles. I'm not Steven Spielberg. I'm fucking Mathieu Kassovitz. »
Le montage ne semble pas terminé, comme en témoigne l'absence de générique de fin. Clairement, on sent l'export d'une vidéo dont la production a été brutalement interrompue. Vu ce qu'il y montre, ce making-of n'aurait jamais dû sortir en temps normal. Usuellement, dans un making-of d'un film américain, tout le cast interviewé dit que tous les autres ont été géniaux, l'aventure a été formidable, le script était super et ce film sera le meilleur dans leur carrière. Matez-vous une centaine de bonus de DVD de Blockbuster, il n'y a pas une goutte d'eau froide. Jamais rien ne dépasse, ce service com va lisser tout ça, rappelant aux acteurs leurs obligations sur la promotion et leur clause NDA, Non-Disclosure Agreement. Surtout que depuis 2010, tous les acteurs de premier rang sont impliqués comme producteurs aux côtés du réalisateur. Mais là, nous regardons donc le journal intime d'un film naufragé, la sacro-sainte vision française de l'auteur violemment percutée contre la mentalité de la 20th Century Fox, où une major aura toujours raison. Les problèmes techniques ubuesques vont de pair avec des relations électriques entre un réalisateur exigeant et un acteur très imbu de lui-même qui veut devenir réalisateur. Les interviews tournées durant la longue période de post-production montrent bien la différence culturelle et le choc qu'a vécu l'équipe. Dans ces interviews, Vin Diesel à piscine n'est pas là. Le cascadeur Alain Figlartz expose son enthousiasme douché.
Il trouve le moyen de venir me voir pour me dire « Alain, j'adore ce que tu fais. J'adore, I love you. Oh, total, hein. Mais je viens pas. »
Michel Yeo est désolé pour Mathieu Kassovitz qu'elle admire, et Mélanie Thierry n'a pas sa langue dans sa poche pour fustiger la star américaine.
Donc il avait raison de réagir comme ça. Le problème, c'est qu'il y avait tellement un manque de communication entre Mathieu et Vin.
D'un coup, le regard du public français sur ce film qui l'a déçu change complètement. Et le naufrage s'explique, éclairé par ce making-of inespéré, montrant la réalité des coulisses, les dessins d'art concept rageusement jetés à la poubelle, les décors plus apocalyptiques que prévu, les techniciens qui ne savent plus où se mettre, et toute une équipe de cascadeurs préparés à donner le meilleur d'eux-mêmes, freinés par une masse de muscles starifiés qui enchaînent les caprices. 5 années plus tard, Kassovitz tweetera une photo où il annonce qu'il s'est réconcilié avec Babouliné, alias Vin Diesel. Je vous laisse deviner l'origine du surnom, forcément lié à celui du film naufragé Babylon A.D. Réconciliation de façade, et le surnom restera à Vin Diesel. D'ailleurs, ses collègues de la saga Fast and Furious lui trouveront d'autres surnoms d'autant moins charmants. Babouliné s'en fiche, il est entré dans la franchise Marvel avec un personnage qu'il doublera dans toutes les langues, Grotte. Et sans avoir besoin de répéter ses cascades. Kassovitz ne sera plus qu'acteur, mais 15 ans après L'Ordre et la Morale, il signera son retour dans The Big War, adaptation de la bande dessinée La Bête est morte d'Edmond Calvo. Pour en revenir à cette vidéo, ce documentaire est à voir pour ce qu'il montre de la difficile coordination entre des intérêts pas si convergents sur un projet ambitieux. Le budget ne fait pas tout, et c'est pire quand il est volontairement pas fourni dans les temps. Pour ceux qui travaillent dans l'IT, l'histoire résonnera forcément d'anecdotes vécues. Nombre de jeux AAA brutalement annulés après des années de production, des convergences entre entreprises qui explosent malgré des annonces encourageantes, et ne parlons pas d'ambitieux projets IT qui tournent au désastre pour des raisons parfois surprenantes. Et si malgré tout le produit sort, les utilisateurs ressentent inconsciemment les tensions internes car après tout, on ne ship qu'un reflet de son organisation interne. Ce documentaire est le rétex expiatoire, le retour d'expérience venue d'une autre industrie, le post-mortem d'un incident artistique et industriel qui en dit tant sur d'autres, celui qu'on attend avec impatience dans une journée de conférence technique pour justement comprendre ce qui peut foirer dans son travail habituel et qui pourrait décoincer les crispations dans un projet qui s'enterre. Le making-of expose le cauchemar de toute personne impliquée dans des productions audiovisuelles avec un budget ambitieux. De nos jours, il explique pourquoi des réalisateurs et des producteurs se tournent de plus en plus vers l'IA générative. Moins d'humains, c'est moins d'emmerdes, ai-je entendu dire à la sortie d'un comité de pilotage IT. avec le recul, ça me fait mal de reconnaître que mon interlocuteur n'avait pas totalement tort. Fucking Kassovitz, documentaire de François-Régis Jeanne, réalisé en 2011, making-of du film Babylon AD par Mathieu Kassovitz. Disponible sur YouTube et d'autres plateformes vidéo participatives. Ok Go, Upside Down and Inside Out. Littéralement le programme du clip qui a été tourné dans un avion à 0G. Upside down and inside out, you can be alone. Upside down and inside out, you can be alone, be alone. Don't know where your eyes are, but they're not doing what you said. Don't know where your mind is, baby, but you're better off without it. Inside down and upside out, and you can be alone. Radio éphémère. Si l'animation a été une avancée formidable dans le cinéma, que cela soit dans le stop-motion ou le dessin animé, sa plus grande difficulté est d'obtenir des mouvements réalistes dans les dessins d'intervalle pour immerger encore plus le spectateur dans l'histoire. Pour cela, les animateurs sont face à deux contraintes. La première est de s'obliger à animer le plus fluide possible, donc 24 images par seconde en démultipliant les dessins d'intervalle, ce qui est extrêmement coûteux à produire et donc très rare. Et la deuxième contrainte est de réussir à dessiner des mouvements les plus naturels possibles, aussi bien pour les êtres animés que pour les objets. Car effectivement, l'incohérence de mouvement souligne le gag dans un contexte humoristique ou l'étrangeté dans un film horrifique, mais elle n'aide pas l'immersion dans un film dramatique. Il faut donc trouver un moyen d'avoir un rendu plus réaliste des mouvements musculaires, de la chevelure et des vêtements. La méthode qui a été la plus simple à utiliser pour améliorer ce naturel a été le décalque, ce que l'on appelle techniquement le rotoscoping. Le réalisateur de dessins animés prend une caméra cinéma conventionnelle et fait jouer les mouvements à des acteurs avec un minimum d'accessoires et de costumes. Puis il projette ce film témoin photo par photo sur une planche à dessin et dessine les contours sur cellulo. Un procédé créé en 1915 par les frères Fleischer et qui va faire leur réputation d'excellence étant les utilisateurs exclusifs du procédé car tout simplement ils l'avaient breveté. Ce qui dès l'époque du muet et avant leur série animée Popeye le Marin ou Betty Boop leur permit de se démarquer des autres studios de cartoons et donc d'être bien mieux distribués et donc faire plus de bénéfices. Quand ce brevet est passé dans le domaine public en 1935, il intéresse immédiatement un studio concurrent, celui que vient de monter Walt Disney. Ce réalisateur-producteur cartonne avec ses cartoons musicaux de Mickey Mouse et Donald Duck, mais il a l'ambition de briller lui aussi par ses qualités techniques. Le rotoscoping est une des technologies qui vont lui permettre de produire le premier dessin animé long-métrage, Blanche-Neige et les Sept Nains, qui sortira sur les écrans en 1937. Inutile de vous dire que ça le change des cartoons d'avant-programme. Grâce au rotoscoping, les mouvements deviennent suffisamment réalistes pour que le dessin animé puisse raconter une histoire moins légère et aussi faciliter la tâche des intervallistes pour accélérer leur travail et donc réduire le coût de production. Et un film qui a servi à mesurer le mouvement peut être réutilisé et dessiné différemment. D'ailleurs, les animateurs du studio Disney ont souvent réemployé des mouvements déjà décalqués. Des calques faites depuis les scènes témoins filmées ou depuis d'autres dessins d'intervalle. Si vous trouvez les scènes de danse, par exemple, des Aristochats et du Livre de la Jungle étrangement similaires, c'est tout à fait normal. En plus, ça coûte encore moins cher. Le procédé s'est retrouvé dans le jeu vidéo, puisque le premier créateur de jeux vidéo à utiliser le rotoscoping est Jordan Mechner, d'abord pour son karatéka, où il a filmé son père en kimono faisant des cabrioles sur sa bagnole, puis pour Prince of Persia, où il a filmé son frère sautant dangereusement sur le trottoir. Et ensuite, partant de Polaroid tiré sur la télé, il a dessiné des grilles de pixels qu'il reproduit sur Apple II. Jordan Mechner nous l'a raconté dans l'interview qu'il nous a accordée. Le principe du rotoscoping est loin d'avoir disparu, puisqu'avec les avancées des logiciels de reconnaissance de forme, il est devenu très simple de l'appliquer à des objets 3D ou des éléments 2D. Dans les logiciels actuels, le tracking entre l'image de début et de fin est réalisé automatiquement et en temps réel. C'est d'ailleurs une technologie de base utilisée dans les effets spéciaux au cinéma pour les corrections cosmétiques. Par exemple, quand on veut ajouter des effets de brume derrière un personnage en avant-plan. Et même chez les VTubers, le rotoscoping est la technologie utilisée pour mapper leurs mouvements sur leur avatar animé en utilisant la webcam d'un smartphone, que le patron soit deux dessins en 2D ou un personnage en 3D. Les logiciels Live2Cubism, VTuber Maker ou Animaze utilisent votre webcam à cet effet. Oui, la petite nièce fait peut-être naturellement du rotoscoping d'elle-même tous les soirs pendant des heures en direct sur Twitch ou TikTok. Mais le rotoscoping ne fait que de la saisie de mouvements filmés depuis une seule caméra, donc dans un espace plan. Parallèlement, les premières tentatives de représentation en trois dimensions sur écran d'ordinateur vont être travaillées dans les années 1960. Et l'un des premiers éléments vivants numérisés, vectorisés en trois dimensions sera une main. Une simple main. A Computer Animated Hand est un court-métrage de démo réalisé en 1972 par Edwin Catmull et Fred Parker dans le cadre de leur thèse et présente entre autres la main gauche d'Edwin Catmull. Elle a été moulée dans du plâtre, le moulage a été marqué de 350 points, point qu'il a fallu mesurer manuellement les coordonnées 3D en guise de numérisation, puis entrer les mesures par un terminal texte, écrire un logiciel de rendu, emprunter la caméra cinéma d'un labo à côté pour photographier image par image le rendu sur un écran vectoriel. D'abord en fil de fer, en face plane et enfin en face ombrée. Edwin et Fred ont eu le courage de remettre ça avec un moulage du visage de la copine d'Edwin. Un travail harassant, et Edwin Catmull fit du chemin depuis puisqu'il cofonda la division informatique de Lucasfilm, direction qui devint Pixar, il co-créa leur fameux logiciel de rendu 3D Renderman et devint président des studios d'animation Disney, cumulant un Turing Award et 4 Oscars. La technologie va évoluer avec l'usage de multiples caméras témoins, de systèmes de positionnement comme le LIDAR, la standardisation de repères en croix ou en damier posés dans le décor, de boules réflectrices en infrarouge ou de points posés au maquillage sur les acteurs. On parle de motion capture et les techniciens songent déjà à la performance capture. En 1993, le studio français Gribouille, mené par le réalisateur Didier Pourcel, effectue le premier clonage d'un acteur humain dans le cyberspace. En l'occurrence, Richard Bohringer, s'il vous plaît. Le visage constellé de points blancs pour le long-métrage 20 milieux sous les mers, entièrement réalisé en 3D. Et oui, avant Toy Story, la France avait déjà produit un premier long-métrage en 3D. Mais il n'est jamais sorti en salle. De nos jours, sincèrement, on dirait le jeu vidéo Myst, premier du nom, ou une version scénarisée longue d'un best-of Imagina. Le reportage Making of montre une saisie automatisée et temps réel des points du visage. Ce film a été l'occasion de produire de nombreux outils, de logiciels, de systèmes de capture et a été célébré comme tel dans les milieux de l'infographie. Avec déjà en 1993 des questions morales sur qui peut être la doublure de saisie 3D d'un acteur ou qui peut reprendre les saisies d'un acteur pour en faire autre chose.
Je trouve ça génial d'avoir un double qui a un maître.
Par la suite, la technologie s'est grandement améliorée avec des processus nettement plus simples ainsi que la gestion des squelettes, des musculatures et des tissus mous. En 2004, Robert Zemeckis utilise la performance capture et numérise complètement l'acteur Tom Hanks qui joue plusieurs rôles dans le film Pôle Express. En plus grand ou en plus petit, l'acteur joue quasiment tous les rôles du film. Une décennie plus tard, le vertigineux film Gravity désorbite les avatars numérisés de Sandra Bullock et George Clooney, mêlant univers complet en 3D et projection des visages filmés des acteurs derrière le casque de leur scaphandre. On atteint le point où il est très difficile de dire quand les acteurs sont des images 3D ou compositées depuis un fond vert. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Louis Cruz, réalisateur audiovisuel et formateur en IA générative. Est-ce si libérateur que ça de ne plus avoir à dépendre du matériel loué, de la construction des décors et de la position du soleil ?
Alors, oui, parce que la première chose que je me suis toujours posée comme question dès que je devais travailler sur une prod, c'est la faisabilité. Est-ce que techniquement c'est possible ? Est-ce que j'ai les compétences ou est-ce que mon équipe a les compétences ? Et surtout, est-ce que financièrement on peut le faire ? Et jusqu'à présent, tout était construit à travers cette question-là. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, il y a plus cette question qui est posée. C'est-à-dire que au niveau budget, on n'a plus besoin de budget astronomie pour faire des trucs incroyables. Techniquement, tout est possible ou presque. Enfin, ça dépend de mes compétences, mais j'arrive à faire des choses vraiment qui me conviennent. Voilà.
Est-ce que pour toi, c'est une révolution qui est à peu près comparable à la démocratisation des outils de modélage 3D au ray tracing dans les années 80-90?
Ah, je pense que ça va au-delà. Mmh. Alors même si ce que tu cites là, ça me parle aussi à travers des sociétés toulousaines, notamment je pense à Volume, tu te souviens de Volume 4D ?
Volume 4D qui était rue Pharaon, oui, qui était un logiciel d'édition, de rendu 3D d'abord sur Amiga, qui ensuite est allé sur PC. Je crois qu'ils ont continué assez longtemps d'ailleurs.
Je crois, ouais. Ouais. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est ça va même au-delà de la création en ray tracing. J'ai l'impression que les seules limites de l'IA aujourd'hui, c'est l'imagination. C'est pas très complexe à utiliser. Et c'est surtout, on est capable de tout matérialiser avec cet outil-là. Il est juste incroyable, quoi. Mmh.
Et est-ce que tu penses que l'IA générative pourrait rendre obsolète la 3D?
Je ne sais pas. Je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que la 3D, c'est pas mon domaine. Je trouve ça passionnant, là aussi. À la rendre obsolète, je pense qu'il faut partir du principe que l'IA générative est un nouvel outil avec un nouveau raisonnement, une nouvelle approche. Après, j'ai l'impression que c'est un outil qui va servir de pont vers autre chose. C'est-à-dire que la 3D permettait de faire de la 3D, je sais déjà, mais que l'IA générative va permettre d'aller au-delà de la simple 3D entre guillemets. Je pense que ça va être un pont pour aller vers au-delà, encore plus loin. J'ai du mal à l'expliquer parce que même moi, je ne sais pas trop vers où on va. Je sais que c'est quelque chose d'incroyable et formidable. Ça fait peur même à certains, mais je pense que ça va aller très loin, quoi. Voilà.
T'as tenté de t'y amuser sur des concepts justement qui sont au-delà de la 3D, des concepts mathématiques genre hypercube et tout le reste.
Ah, je sais pas ce que c'est, vas-y, explique-moi ce que c'est.
C'est une représentation du cube en 4D, c'est-à-dire au lieu que tu compenses autant comme une dimension, c'est une autre dimension à côté, ou ce genre de choses de représentation. Pense à du MC Escher, ou ce genre de choses, quoi.
Ah oui.
Où justement, on est au-delà du rationnel.
Ouais. Je pars pas dans ces, je suis beaucoup trop matérialisation rationnelle dans ma tête, en fait. Faut que l'image soit matérialisable. Les seules choses que j'ai exploitées en 3D avec de l'IA, c'est le fait de partir d'un plan plat d'architecte et d'être capable de le matérialiser en 3D juste avec un prompt, tu vois, à partir d'un plan, en donnant les instructions, qu'elle soit capable de me matérialiser le lieu et de pouvoir s'y promener, etc. Parce que ça fait partie d'une demande qu'on m'a évoquée il y a pas plus longtemps qu'il y a une semaine. Une nouvelle école qui va être créée. Et pour l'instant, les responsables, enfin, les propriétaires de cette école n'ont que des plans d'archi. Ils m'ont dit, est-ce qu'il est possible en 3D, enfin, grâce à l'IA, pardon, de fabriquer et le lieu très facilement, très rapidement. Parce que moi, j'ai fait la matérialisation de l'espace business de la Royal Air Maroc, parce que ça aussi, c'est une demande qu'on m'a faite pour voir si c'était possible. Et bah, a priori, oui, c'est possible, juste à partir de simples photos.
C'est impressionnant. Tu m'as communiqué un site de démo reel, donc un portfolio vidéo représentatif de ton art, donc sur le site monsieurcruz.com. qui est différent de celui que tu avais avant, jeanlouiscruz.com, Alors que, franchement, les images de l'ancien site, bah, elles sont superbes, elles sont tournées à travers le monde, dans des endroits d'exception, avec des moyens fantastiques. Donc, question psychanalytique, on tire un trait sur le passé ou c'est que deux façades différentes pour deux demandes différentes ?
Eh ben, c'est exactement ça, c'est deux façades différentes pour deux demandes différentes. Pourquoi il y a deux noms différents ? Jean-Louis Cruz, entre guillemets, je suis connu en tant que réalisateur classique, avec des outils classiques. Et quand j'ai commencé à basculer vers l'IA, j'ai voulu créer un profil artiste pur au début parce que je faisais que de l'image et je voulais garder mon nom, donc je l'ai appelé Monsieur Cruz tout attaché en un seul mot. Parce que je me suis dit, si je le mets sous le nom de Jean-Louis Cruz, on va tomber sur mes réalisations vidéo, on va rien comprendre, alors que j'avais créé un univers artistique sous le nom de Monsieur Cruz. Et ça a évolué, en plus avec l'arrivée donc de la vidéo en IA, j'ai été obligé de créer dans mon site Monsieur Cruz une rubrique qui s'appelle Monsieur Cruz Studio, dans laquelle je développe tout ce qui est production audiovisuelle en intelligence artificielle.
Du coup, ça veut dire que tu ne mets pas entre parenthèses ta précédente carrière. Elle va continuer de toute façon si tu as la demande.
Oui, tout à fait. Elle continue d'ailleurs. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pars à Los Angeles le mois prochain sur une production classique, entre guillemets.
D'accord.
Enfin, classique. Aujourd'hui, je tourne avec mon iPhone, tu vois. D'ailleurs, je tourne plus avec des grosses caméras, avec du matériel lourd, etc. On me demande de tourner en run and gun. Alors, je travaille avec les DJI Osmo Pocket 3. Je travaille là pour la prochaine fois, ça sera avec mon iPhone parce que ça crée des images incroyable, déjà en ProRes HQ de niveau qualitatif incroyable, donc voilà, petit à petit.
Et ça coûte moins cher qu'une RED.
Ah mais complètement, oui. Oui, oui.
C'est plus facile à réparer aussi, tu vas au magasin.
Et puis au niveau post-production, une RED, traiter des fichiers RAW, c'était extrêmement lourd et complexe, tandis que là, c'est bon, voilà quoi, on a une image assez qualitative, franchement, pour rien du tout. Enfin, rien du tout, j'exagère, ça coûte cher un iPhone, mais quand on voit le rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Hein.
Ça se comprend. Nous faisons ici donc la fin de cette première émission sur le sujet. Tu ne bouges pas, on se retrouve dans 168 heures pour la suite de cette émission, et sinon l'intégralité de l'interview est déjà disponible sur le site web de l'émission. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Intelligence Artificielle, release EX-239, l'IA fait son cinéma, première partie. Cette release, l'équipe est composée de Daskitch, Chief Operator Officer, la release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/239. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h pour la suite du sujet. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou en numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé avec des invités en chair et en os. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+ et en stream sur Internet.